Active Chorale, le podcast de la chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
Salut à tous, on se retrouve ensemble pour débriefer le match de la 21e journée de Betclic Elite, match en retard, défaite de la chorale de Rouen face à la JL Bourg sur le score de 111 à 87. À mes côtés, pour débriefer ce match, il est abonné à Vacheresse. Bonsoir François Pertil.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
Nicolas Bria est avec nous, bonsoir Nicolas.
Bonsoir les amis.
Et une nouvelle voix à mes côtés, c'est Benjamin Guillot, en formation de directeur sportif. Tiens, justement, ça nous intéresse à l'Université de Grenoble. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
La chorale de Rouen s'incline donc face à la JL Bourg sur le score de 111 à 87. C'est la, alors attendez, je crois que j'ai fait les calculs, 10e défaite sur les 12 dernières journées de Betclic Elite pour les Rouennais. Et c'est la 5e défaite sur les 6 derniers matchs à la Halle André Vacheresse, sur les matchs à domicile. Défaite face au 3e du championnat, la JL Bourg qualifiée pour le dernier carré d'Eurocup. Les Rouennais étaient pourtant devant à la mi-temps et menaient 56 à 52, mais ils s'inclinent au final de 24 points. Je crois qu'on a rarement vu une telle mi-temps à sens unique.
Ouais, bah c'est ça. On a vu une super première mi-temps, parce qu'on va quand même, il faut quand même le dire, on a une première mi-temps où nos coralliens jouent extrêmement bien. On retrouve un Kadri, on retrouve un peu d'adresse chez Kadri, ça fait extrêmement plaisir.
Ouais, c'est lui qui participe au run en fin de deuxième quart-temps pour passer devant et faire un mini écart, parce qu'au final, les Rouennais menaient de 4 points.
De 4 points à la mi-temps, exactement. On retrouve aussi Kellen Grady qui nous fait une bonne première mi-temps. On a une équipe qui est soudée, qui joue bien.
Et surtout un Sekou Doumbouya qui était inarrêtable sur la première mi-temps. Je crois qu'il termine à 26 points, mais je crois qu'il a mis la majorité en première mi-temps.
Et surtout, il fait pas beaucoup de ballons perdus, pas beaucoup d'erreurs. On l'a vu charger un petit peu beaucoup sur les matchs d'avant. Et là, je l'ai trouvé beaucoup plus juste.
Non, mais c'est ça, globalement, on fait une première mi-temps et puis arrive donc le troisième quart-temps. Et là, on a l'impression que la lumière s'est éteinte. Alors, on va pas non plus, on va pas négliger l'intensité défensive de Bourg qui est montée vraiment de deux voire trois crans. Ça nous a énormément gêné et là on a vu la différence clairement entre une équipe qui joue l'Eurocup et une demi-finale à Istanbul qui va être chaude avec des très bons joueurs, hein, faut pas se leurrer, et puis notre équipe qui joue avec ses faiblesses et qui est retombée dans ses travers, parce que dès qu'on leur met une vraie grosse pression, les shoots ne rentrent plus et donc on prend, je crois, si je dis pas de bêtises, 14-0 exactement. 14-0. Et derrière, on n'arrive plus à revenir. Et quand on mettait un panier à deux points, ils en mettaient un à trois points. Et là, on voyait la classe individuelle, tu vois, qui était supérieure.
Les stats sont assez terribles. Si tu prends les shoots à trois points, on est à 58% à la mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, on fait 18%.
Voilà.
Et au rebond, on fait 13-13 en première mi-temps. Et en deuxième, on perd 9-20. Surclassé.
Mais clairement, voilà, on était surclassé. Alors c'est dommage parce que ça donne une mauvaise image finalement de l'équipe, et puis on prend 111 points, on a l'impression qu'on a abandonné le match. Mais
même total que l'an dernier. Hein. Bon, quand moi c'était venu s'imposer 111 à 108, ça avait un peu plus matché hein, quand même. C'était au début du mois d'avril, c'était le fameux match où Maxime Ross fait la rupture des tendons d'Achille. Voilà, 111-87. Ouais. Ça fait beaucoup de points concédés.
Ouais, en plus c'est dommage parce qu'on les avait battus à l'aller. Fabien, on était sur place, rappelle-toi. C'était un super match, et là effectivement on a pas pu matcher dans cette partie-là. Il y avait un vrai écart de niveau.
Benjamin, qu'est-ce qui se passe pour qu'une équipe qui est au contact sur la première mi-temps se délite de cette manière en deuxième mi-temps?
Je pense que on s'est pris clairement une explosion sur le début du troisième quart-temps, 14-0 comme ça a été dit. En face, ils étaient extrêmement adroits. Ils ont clairement fait la différence en attaque. Nous, on n'arrivait pas à faire les stops en défense et tout.
64% au tir. Des fois, ça, c'est des chiffres que je vois sur une mi-temps, mais sur un match complet. 64%. 16 sur 30 à 3 points. Alors, c'est une stat que je sors régulièrement. La chorale est l'équipe qui laisse la plus forte adresse à 3 points à ses adversaires. Bon, ce soir, ça s'est vérifié. Hein. 16 sur 30. Et encore, Zachary Rizaché plombe un peu les stats de shoot extérieur des Bressans sur la fin de match avec son 0 sur 2. Mais il y a eu un moment, là, au tournant du 3e, 4e quart-temps, où n'importe qui, même Maxime Sella, je prends son shoot, tout le monde rentrait, c'est tir à 3 points, et souvent dans un fauteuil en plus.
Axel Julien a fait beaucoup de mal, notamment à cette période-là. Il a été extrêmement
4 sur 6 à 3 points.
Il a fait clairement la différence. Et puis derrière, c'est toute l'équipe de la JL qui a su hausser son niveau.
Alors, ce qu'a dit Marc Bergeron en conférence de presse, c'est qu'on voit la différence entre une équipe en confiance, qui voilà, est dans, sur le podium, qui va jouer une demi-finale d'Eurocup, et une équipe en manque de confiance. Voilà, là, il n'y a que la confiance qui explique cette adresse à trois points.
Non, je comprends que Marc Bergeron, ils veulent un peu protéger son groupe, qu'ils veulent essayer d'instaurer des choses, mais on prend beaucoup de 3 points parce que les mecs, ils sont, il n'y a personne à moins d'1m50 sur eux quand même en deuxième période, donc c'est quand même gênant. Vraiment, tu parlais de Zachary Rizaché, pardon. Pour lui, c'est dommage parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait du beau monde à la halle.
Ouais, il y avait le boss des Spurs, il y avait un scout des Hawks d'Atlanta également.
On a rarement eu ça à Vacheresse.
Ouais. Ah, et en plus, honnêtement, si on l'attend draft numéro 1 sur ce match-là, moi je. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Hein. Mais pour revenir sur les 3 points, effectivement, il y a des largesses défensives. Hein,
clairement. Il y en a eu également, en première mi-temps, combien de paniers faciles, d'incompréhension défensive et des brasseurs qui sont. Je pense me souvenir de J. Cole Lewis qui voit tout le monde s'écarter pour le laisser aller au panier. Le nombre de paniers sur seconde chance, alors je crois qu'on a ça sur la feuille de stats. 14 points sur deuxième chance, mais voilà, beaucoup de petites claquettes dans la raquette, où limite on avait l'impression que les Rouennais parfois s'écartaient un peu. Alors je ne sais pas pour quelle raison, peut-être pour éviter la faute, mais. Beaucoup de paniers faciles pour la JL Bourg. Et c'est dommage parce que ça ternit le match, surtout la première mi-temps des Rouennais, où ils ont quand même eu du répondant. Enfin, faut les mettre, les 52 points Bourg-en-Bresse en 20 minutes. Ah, 56 points.
C'est ça qui fait le plus mal, c'est que à la mi-temps, on se dit, il y a match. Franchement, c'est intéressant, on joue bien.
Et surtout que pour une fois, j'ai envie de dire, par rapport au précédent match, c'est qu'on était plus dépendant exclusivement de l'axe 1-5.
Oui.
D'autres, on en parlera du match de Yanis Morin qui malheureusement ce soir n'a pas été performant comme ce à quoi on nous a habitués sur les derniers matchs, qui était presque anormal hein, d'être aussi prégnant dans le jeu d'attaque. Mais là, il y avait de l'alternance. Que demandait Alexandre Combes la semaine dernière à ce micro, il y a eu de l'alternance.
Non, vas-y. C'est vrai qu'on peut souligner que par rapport au match de Gravelines, où la première mi-temps de Gravelines, il y avait je crois que 4 marqueurs côté oui. Corallien. Là, la marque était beaucoup plus équilibrée.
Exactement.
On avait retrouvé un secteur extérieur avec Callum Grady qui avait montré un meilleur visage, Kadri aussi qui avait fait une très très bonne fin de deuxième quart-temps. Et là, malheureusement, c'est vrai que après au troisième quart-temps, la JL Bourg a montré que c'est une équipe de rock-up. La chorale n'est pas une équipe de rock-up.
Non, mais c'est ça. On a l'impression qu'on aurait dû. Pu gagner un match comme ça. Mais non, mais il y a un niveau d'écart. Clairement, il y a un niveau d'écart.
Mais on est d'accord, il y a un niveau d'écart. Mais si. T'es en train de dire, ouais. C'est pas illogique qu'on perde.
Oui.
Ça, je suis d'accord, je le comprends.
Ben voilà.
Mais qu'on perde comme ça de 24 points, en ayant laissé autant de shoot à 3 points ouverts, en ayant fait. Je sais pas. Je crois qu'on fait notre première faute au dernier quart, il doit rester 4 minutes à jouer, quelque chose comme ça. Bon, c'est décevant.
Après, que ce soit décevant, mais moi je suis d'accord avec toi.
Voilà, et c'est ça qu'on dit.
Mais après, regarde le match amical contre Saint-Chamond, je pense qu'on leur met. Attends, écoute-moi bien. On leur met 20 points, mais l'écart entre Saint-Chamond et Rouen cette année et Rouen et Bourg-en-Bresse cette année, c'est le même. Il faut pas se leurrer. Quand tu peux te permettre de mettre Lewis en 1 et que derrière tu sais que tu tournes avec Hugo Benitez et au pire, tu as Axel Julien sur le poste 1. Excuse-moi, quand tu sors Cooper, je suis fan du petit Alexandre Boustine, en apprentissage, il apprend, mais c'est pas le niveau du tout des deux autres meneurs. Et c'est comme ça sur chaque poste. Donc à un moment, il faut être réaliste aussi. Autant on peut s'énerver, en vouloir sur un non-match de Kadri, de Grady contre Graveline. Parce qu'il fallait vraiment le prendre. Ce soir, il y a une classe d'écart.
Non, mais je suis à peu près d'accord et j'entends. Mais. Il y a des attitudes qui sont toujours gênantes. On en revient toujours à un peu ce qu'on dit. On bazarde le match assez vite. Quand même. Alors, et ça, c'est frustrant.
Là où je te rejoins, c'est et tu le disais aussi, c'est qu'effectivement, sur les 4 dernières minutes, on a l'impression que le match est fini. Là, je te rejoins. Et c'est là, on joue plus trop, il n'y a plus trop de défense. Et puis, alors, le score paraît élevé, mais regarde le dernier quart. On fait combien sur le dernier quart? Parce que là, j'ai que les chiffres toutes les 5
13,
minutes.
13-27.
Voilà, bon. Mais je te comprends, hein, c'est décevant le public.
Deuxième mi-temps, 59-31.
Ouais, voilà. Moi, ce que j'arrive vraiment. Mon interrogation, c'est pourquoi sur le début vraiment du troisième carton, alors qu'on fait une très bonne première mi-temps, On se prend ce 14-0. Donc, moi, je peux expliquer un 5-0, ça va vite. Hein. Tu tapes à la balle, tu prends un 3 points, une contre-attaque, voilà, 5-0. Mais là, c'était 5, 7, 10.
Peut-être que Fautou, aussi détestable soit-il à avoir sur le bord du terrain, parce que vraiment, il est pénible. Eh ben, peut-être que c'est un très bon coach et il leur suffit d'une mi-temps à ces très bons coachs pour relancer leur équipe. Hein.
Ouais, donc un coup de gueulante et les mecs ils sont mis à jouer. Quoi.
Ah, puis peut-être quelques conseils tactiques, des choses comme ça.
Ou alors, Bourg-en-Bresse a pris le match un petit peu, tu sais, mode sénateur, mais en disant bon, ça va bien se passer. Mais... Et ils ont peut-être raison finalement. Tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui ont joué comme ça contre nous. C'est-à-dire que.
Ouais, qui produisent leur effort à un moment.
Ouais.
Comme Gravine l'a fait en première mi-temps, comme ouais. Nanterre l'avait fait également. Où ils ont besoin de produire leur effort sur une petite séquence du match pour ensuite être en mode gestion.
Ouais, et parce qu'ils savent de toute façon qu'ils ont un effectif où ça va tourner, ils ont des joueurs performants. Et puis à la longue, ils savent que de toute façon ça se passera bien. Et je pense que.
Il n'y a pas un joueur de Bourg-en-Bresse à plus de 20 minutes de temps de jeu.
Oui, ouais. Mais il y a ça. Et puis regarde. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est la différence d'agressivité sur les bancs. Alors, pas sur les bancs pendant le match, mais des bancs qui rentrent. Honnêtement, tu regardes Benitez, il nous a mis une pression en défense qui était folle. Nous, on n'a pas eu ça de notre banc.
Eh ben oui, mais regarde, Benitez, c'est un joueur de plus talentueux, oui, j'ai envie de te dire.
Mais là, je parle même d'attitude seulement.
Ouais,
hein.
Mais justement, mais sur l'attitude, tu dis à un gars comme ça qui est talentueux, de toute façon, s'il est cramé dans 5 minutes, t'as vu qu'il rentre ? Eh ben ouais. Donc tu peux te cramer, hein, parce que tu sais que derrière toi t'es pas le joueur, on va dire idoine, tu vas pas sauver l'équipe. Derrière t'as le mec qui rentre, il est aussi fort que toi.
Mais notre banc devrait être dans le même état d'esprit.
Sur l'intensité, ouais, je suis d'accord avec toi. Là tu voilà.
Est-ce qu'on peut vraiment avoir des regrets sur un match comme ça ? C'était annoncé comme un bonus éventuel. Finalement, là il y avait deux matchs en retard. Le regret il est pas là. Le regret il est sur sans doute.
Il
n'est
pas comptable. Le regret n'est pas comptable ce soir.
Exact. Ouais. On précise parce que les gens vont. Oui, effectivement, on n'avait pas comptabilisé cette. On n'avait pas coché ce match sur une victoire. Mais c'est dans l'attitude, Nico. Mais t'as raison, mais je suis d'accord
avec toi. C'est le décodeur.
Bah oui, parce que c'est vrai que. Non, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais pour mon sang, mais cette équipe, elle est nulle. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas si nulle parce qu'elle a prouvé sur une première mi-temps qu'elle était capable. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de l'intensité qu'elle peut mettre, de la volonté, on a l'impression, est-ce qu'elle veut vraiment se sauver, enfin, cette équipe se sauver en bête-clic.
J'ai eu la même impression que sur le match de Strasbourg, où contre Strasbourg, on fait trois bons cartons et on n'arrive pas à être devant. Et quand on était à plus 4 à la mi-temps, alors c'est bien de rentrer à la mi-temps avec plus 4, mais quand je voyais ce qui a été déployé en attaque et qu'on était à peine devant cette équipe de Bourg-en-Bresse, qui avait l'air de ronronner un petit peu, ben moi aussi j'avais cette impression de Bourg-en-Bresse, au final, ils vont mettre le coup de collier grâce à la qualité de leur banc. Et c'est des matchs qu'on ne peut pas prendre contre des équipes comme ça.
On ne capitalise pas assez sur nos temps forts. Et c'est ça, quand tu domines ou tu fais une si bonne première mi-temps, finalement finir à 4 points d'avance, c'est préjudiciable pour tes temps faibles.
Ah non, mais vous avez raison. Et puis malgré tout, après, ben voilà, on a quand même des. Encore ce soir, hein, en deuxième mi-temps, on a des shoots ouverts. Qu'on met plus.
Alors qu'on parce qu'il n'y a plus de rythme.
Ouais, plus de rythme. Alors.
Après, à mi-temps, on les rentre parce qu'on est sur beaucoup d'interceptions aussi, mais on est sur un rythme beaucoup plus élevé.
Bien sûr, mais t'as raison, hein, le rythme amène souvent des paniers faciles, après de la confiance, donc ton shoot à 3 points, tu vas le mettre. Mais c'est dommage parce qu'il y avait moyen au moins de les tenir en tout cas plus longtemps. Et puis, mine de rien, la salle était assez remplie ce soir en plus, donc on aurait pu jouer avec la salle.
L'équipe,
voilà.
Il y a des arbitres qui ont essayé de faire en sorte qu'on joue avec la salle.
Alors, on n'a pas parlé d'arbitrage. C'est vrai qu'on en parle très peu d'arbitrage au podcast.
Mais parce que ça joue pas. C'est pas sur
voilà,
ce match.
Voilà,
ça crée des frustrations, mais ça n'a pas d'impact sur le résultat.
Mais exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je suis d'accord, il y a des coups de sifflet.
Il y a une action où ils peuvent siffler 4 fautes pour Bourg-en-Bresse.
Voilà. Bon, après, mais comme tu dis, c'est pas le plus important ce soir, en tout cas.
Après, c'est vrai qu'on peut souligner la qualité du Rockstar de Bourg-en-Bresse. Quand on voit des joueurs comme
Kevin
Jérémy
Coquilla ce soir. Ils avaient un seul pivot de métier ce soir.
Voilà, Kevin Coquilla
était absent. Ils ont libéré Omenaka, donc ils ont plus que deux pivots.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas, comme tu as souligné, pas un seul joueur à plus de 21 minutes. Je veux dire, c'est quand même un luxe d'avoir un roster de cette qualité. Et. Bourg-en-Bresse est une très belle équipe de Bitlick.
Ah bah si on est sur le sujet Bourg, on peut que féliciter Bourg de tout le travail qui est fait depuis. Enfin, je ne me souviens plus quand est-ce qu'on est allé les affronter en Pro B avant que avant qu'ils remontent, ça remontait il y a 5 ans déjà peut-être. Depuis 5 ans, ils font
2017.
Pas, ouais, bah, ils font pas beaucoup d'erreurs et ils jouent. C'est très bon ce qu'ils font.
Ouais, bah, super. Merci pour Bourque. Merci Nico.
Non, mais c'est vrai,
moi, je suis
on
pas supporter de Bourque
en
Brèze, donc très bien. Moi, je vois qu'ils ont une super équipe, effectivement. Après, pourquoi, je m'en fous complètement. Mais en tout cas, oui. Non, mais ils ont des joueurs qui sont tout simplement meilleurs que ceux qu'on a cette année. Et puis voilà.
C'était le deuxième match en retard de la série après Gravelines, deux matchs à domicile. Alors, quand on était derrière au classement, on se disait il y a ces deux matchs en retard, ça va permettre peut-être de se replacer. C'est un regret quand même de ne pas avoir réussi à en prendre un, parce que certes il aurait fallu surperformer, mais il n'est pas interdit de surperformer. D'autres équipes dans notre zone de classement ont surperformé pour aller chercher des victoires. L'Élan Chalon récemment a battu l'Asvel. Quand on s'est mis dans cette difficulté, à 10 journées maintenant, 9 de la fin, il va falloir surperformer à un moment pour sortir de cette zone rouge.
Et puis notamment peut-être contre Le Mans, le prochain match.
Est-ce que c'est surperformer le Mans actuellement? Le Mans qui est sur une mauvaise série, le Mans qui est...
Enfin, on n'est pas sur une très très bonne non plus. Hein.
C'est pour ça, j'ai envie de... Non mais t'as raison Fabien, on a l'impression que Le Mans, on peut les matcher. Mais vu qu'on est, nous, dans une période qui est plus que délicate, aller au Mans et gagner en sachant qu'eux aussi, ça va être un match important, parce que mine de rien, ils n'ont que 10 victoires, et ben ça va être une vraie performance d'aller gagner là-bas, et en plus ils ont pris Howard là, moi j'ai hâte de le revoir jouer d'ailleurs.
Je suis très curieux de voir ce qu'il va donner.
Ouais exactement, et là par contre ça serait chouette de surperformer et de se dire qu'on peut enfin gagner un match à l'extérieur.
La Chorale de Rouen n'a gagné qu'une seule fois en Antares depuis le début des années 2000.
Et donc, c'est un vrai challenge.
Depuis l'arrivée d'Internet.
C'est vrai, c'est compliqué de gagner au Mans parce que on a l'impression que ce club, il est fait pour être en bête-clic. Tu sais, il est installé, voilà. Et il a cette solidité. Et c'est vrai que si tu dis à n'importe quelle personne qui connaît un peu le basket, tiens, on va aller gagner au Mans, il va dire oh.
C'est un bon résultat.
Ouais. Ça sera un bon résultat. Donc effectivement le Mans en ce moment, mais tu as raison, hein, le signal, ils sont pas au top.
Il me semble que c'est après une défaite au Mans que la Chorale de Rouen a été reléguée en 2014 de mémoire.
Alors tant mieux.
On en est loin encore. Hein.
C'est ça. Tant mieux parce qu'il reste des matchs. Ouais. Mais non, mais t'as raison. Il va falloir qu'on superforme et je pense qu'un match à l'extérieur comme gagner au Mans, ça peut être un de ces matchs-là. Il y en a d'autres hein, parce que aller gagner à Chalon, qui va aussi jouer pour son maintien, ça sera pas facile du tout. Les Nancy aussi. Voilà. Non, mais pour revenir, effectivement, le match essentiel à gagner, on a raté le coche, c'était contre Gravelines.
Il en reste un.
Et oui, on allait mettre. Encore,
il sera... Non, mais puis il reste un match contre Gravelines.
Alexandre, bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais.
Il va falloir corriger les erreurs du passé.
Alors, tiens, justement, on a Benjamin avec nous qui suit une formation de directeur sportif. Tu es le créateur de French Basketball Scouting, c'est ça ?
L'associé, on est deux. Il y a Denis Seller et moi-même. Et donc, ça fait depuis 8 ans que French Basketball Scouting existe. Et donc, c'est un service à destination des clubs français pour les aider dans leur recrutement.
Voilà. Donc, et toi, tu as collaboré notamment au recrutement avec la Chorale de Rouen.
Pas surtout cette année.
Voilà, mais tu as. Voilà,
bah, fais attention, parce que ta page internet, on peut retrouver les noms. Hein. Il y en a qu'on a noté.
Et là, à ce stade de la saison, on a parlé d'un recrutement. Alors maintenant, on se pose la question, est-ce que le recrutement de la Chorale doit faire, pour remplacer qui, par qui? Il y a eu la rumeur sur le forum corallien, notamment, dont Alexandre Lamoine est cofondateur, du recrutement de Ronald March. Alors, renseignement pris, a priori, ça ne se ferait pas, notamment parce que le club de Ronald March ne souhaite pas le libérer.
C'est une vraie info, ça.
Donc, Ronald March à Rouen, sur cette fin de saison, c'est très peu probable. Rappelons que la Chorale de Rouen a refusé de libérer DJ Cooper pour qu'il s'engage à Prométhée. Donc, j'imagine que c'est aussi un retour d'ascenseur.
Ouais. Mais ça veut quand même dire que Ron aurait pu accepter la proposition. Oui. Tu vois, non, mais c'est vrai que si c'est le club qui le bloque, le fait que Ron puisse avoir envie, ça, quand même, il y a un certain attachement. C'est intéressant, quand même.
Ouais, je.
C'est sans doute pas gratuit non plus.
Alors,
on est bien d'accord que c'est pas non plus.
Alors Benjamin, Marc Bergeois en parlait d'un marché bouché actuellement sur ces joueurs, poste 2, poste 3, pour donc étrangers pour venir, ou français pourquoi pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait de profil à la Sekou Doumbouya disponible sur le marché. La Chorale peut recruter un joueur, puisqu'on peut prendre un pigiste médical sur Jalen Jones. C'est facile, alors, c'est pas facile.
Pour, juste, pardon, je vous coupe pour les auditeurs, parce qu'il y a un truc que moi je ne savais pas que j'ai appris ce soir, c'est que, a priori, le pigiste médical peut rester jusqu'à la fin de la saison, vu qu'on a dépassé une certaine date dans la saison. Oui, c'est ça, ça, c'est intéressant à savoir.
Voilà. Alors, comment on fait pour recruter un joueur à ce stade-là, quand on est relégable, qu'on n'a pas forcément un gros chèque à lui donner ?
Bah déjà, il faut savoir quelque chose de très simple, c'est que les meilleurs joueurs ont déjà un club.
Oui, généralement, quand on n'est pas sous contrat, c'est qu'on est un peu en échec.
Voilà, c'est ça. Donc déjà, les meilleurs joueurs ont déjà un club. Après, oui, éventuellement, on peut toujours faire des coups.
Alors, moi, j'ai souvenir de... Il y a un an ou deux, Henri Drel, par exemple. Il y a un an, qui avait été... Alors, il n'avait pas amené la Chorale en play-off, hein, mais c'était un joueur valable.
Voilà, on peut donc faire des coups, bien sûr. Maintenant, le marché est ce qu'il est. Ce n'est pas évident de trouver quelqu'un, surtout dans une mission maintien telle qu'est la Chorale. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper.
On se souvient, je remonte il y a 3 ans, c'était Justin Rice Foreman qui était arrivé en fin de saison. Formidable soliste, entre guillemets, qui avait été un peu difficile à intégrer.
Ouais, au grand désespoir du coach de l'époque. Ouais.
Voilà. Donc, tu nous confirmes que
ça peut se trouver. Encore une fois, il ne faut pas se tromper. Mais ça veut dire débaucher un joueur dans une autre équipe.
Oui, une équipe qui est maintenue dans la fin de saison s'annonce pépère.
Ou un championnat un peu exotique qui s'arrête.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des championnats qui s'arrêtent
Par exemple, l'Australie s'est terminée il n'y a pas longtemps.
Voilà, notamment. Il y a des bons petits joueurs.
Il y a des bons joueurs là-bas. Ouais. Et est-ce qu'il y a des postes, toi qui suis un peu le marché, est-ce qu'il y a des postes où en ce moment c'est plus facile que d'autres de recruter? J'imagine que le poste 5, c'est toujours compliqué. Est-ce que le poste 2, c'est plus facile ou...
Oui. Après, c'est vrai qu'en fin de saison, j'ai envie de dire que tout est compliqué. Okay. Parce que non, c'est autant construire une équipe l'été, il n'y a pas cette notion d'urgence, de temps. Mmh. Autant en fin de saison, tout est compliqué parce que, encore une fois, il y a le challenge sportif, faut pas se tromper.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même convaincre le joueur de venir.
Il faut convaincre le joueur de venir. C'est jamais évident de convaincre un joueur de venir dans une équipe mal classée. D'autre part, il y a quand même la concurrence maintenant des championnats de G-League, d'Asie, qui offrent des très très gros salaires.
Ouais. Donc la solution ne viendra pas forcément de l'extérieur. Enfin, faut pas attendre une recrue. Alors, quand on pense à Ronald March, ça aurait été vraiment la recrue parfaite. C'est vraiment le joueur qui coche toutes les cases, qui connaît le club, le championnat, donc, qui est capable d'apporter de la confiance, parce que lui, je pense que les problèmes de confiance, il ne connaît pas. Dans ce rôle, dans ce profil que recherche le club, arrière-ailier. Alors, arrière-ailier, ça veut dire aussi à la place de qui ? Parce que si tu fais venir un joueur, c'est sans doute pour en mettre un en tribune
Tu nous poses la question là.
Alors, on avait eu ce débat au mois de janvier. Qui ? Alors il y avait Kellen Grady qui était en difficulté, Jordan Tucker qui n'était pas très performant.
22 minutes.
On est 2 mois après, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup avancé, même si ce soir on a retrouvé un peu Kellen Grady.
Mais c'est ça qui est fou, c'est que d'une semaine à l'autre, on ne sait même plus. Moi, je regarde le match de ce soir, je te dis, écoute Kellen, moi il a fait le match qui me convient.
Il est dans le top 3 des temps de jeu côté rouennais. Hein. Il termine après 30 minutes.
Tu vois, il a globalement mérité.
Jordan Tucker est à moins de 12 minutes.
Lui. Et c'est fou parce que ce soir, Kellen, il reprend des shoots. J'ai vu des matchs où il ne prenait même pas un shoot.
Alors, il fait 1 sur 5 à 3 points.
Ouais,
il met 12 points au final.
Voilà. Après, Marc, coach.
Il fait 3 sur 3 au lancer. Il a plus problème de voile devant les yeux comme il l'avait eu à Strasbourg.
Mais c'est ça. Donc ce soir, il a vraiment fait plaisir. Et sur l'envie, j'ai envie de te dire que par rapport à Tucker, Marc, il le gère. Écoute, Jordan, tu défends pas, je te bench. Ça a été cas ce soir.
Juste pour être complet sur Grady, 12 points, 9 passes décisives en près de 30 minutes. Jordan Tucker, alors il fait un 2 sur 2 au tir. Il termine à 4 points. Et puis je cherche d'autres choses sur sa ligne de stats, un rebond, une balle perdue, une passe décisive. Voilà le bilan de Jordan Tucker qui est resté désespérément assis sur le banc jusqu'à la fin de match.
Mais tu vois, si on parle de volonté, de couteau entre les dents pour aller chercher un maintien, moi je préfère à ce compte-là.
Sur l'attitude, sur le profil combattant, Grady, plus de garantie qu'un Tucker.
Et si on a une bonne pioche sur ces lignes d'arrière, moi je mets Tucker. Mais sur ce soir, sur ce qu'il donne, globalement...
Non, mais sur toute la saison.
Ce soir, je pense que Marc Bergeron a fait un choix. C'est-à-dire que tu ne défends pas, tu ne joues pas. Et vu que connaît Tucker maintenant...
Je pense vraiment que c'est ce sur quoi il doit se focaliser. Hmm. C'est-à-dire que son équipe, il y a beaucoup de grands garçons, ils savent ce qu'ils ont à faire pour attaquer. Ce qu'il doit faire, c'est créer une osmose défensive. Voilà. Et ça passe par ça. Tout et c'est fait. Avec ça qu'on va y arriver. Maintenant, Tucker, je crois que 3 ou 4 des 5 ou 6 premiers paniers, ils sont parce que lui, il a laissé des largesses défensives incroyables. Il sort relativement vite derrière.
Ouais. On a vu. Et il y a moyen, parce que contre Gravelines, on les laisse à moins de 80 points. Alors ce soir, bah, voilà, là, on explose, parce qu'on explose, clairement. Mais tu as raison, il a envie d'insuffler cette volonté défensive. Donc, dans ce cadre-là, tu gardes Grady. Et on essaye de choper un gars qui sera un peu plus dynamiteur, un shooter. Ou... Tu vois, c'est vrai, c'est pour ça que Ronald March, il a cette capacité d'aller au panier, de shooter quand il faut. Alors, bon, on l'a pas. Hein.
On l'aura pas.
Voilà. Donc maintenant, voilà, il faut que les gens le sachent et qu'on bascule sur. Alors, je vous dis, on n'aura pas le sauveur, mais un gars qui pourrait nous soulager. Sur des shoots extérieurs, ça nous ferait vraiment du bien.
Oui, et puis quand il y a match, j'ai fait un petit calcul cet après-midi. Tucker, c'est 9 points de moyenne quand on gagne, 9 points de moyenne quand on perd, 9,125 quand on perd de moins de 10 points, et c'est 17,25, je crois, quand on gagne de plus de 10 points. C'est-à-dire, quand ça sert à rien, il est là. Et puis, quand on a besoin de lui, il est pas là.
Donc, tu n'es pas le meilleur avocat.
Non, je suis très déçu, parce que c'est un joueur qui, à mon avis, a tout à fait le potentiel pour être un. Peut-être pas un joueur ultra dominant de Bet League, ou en tout cas pas tout de suite, mais il y a quelque chose à faire avec lui, mais il faudrait que lui, il en ait envie déjà.
Ouais, je crois qu'il n'a pas vocation à devenir un grand joueur de basket en France. Non, mais vraiment, hein, sur la volonté, ce qu'il montre.
Dans le championnat, on le rappelle, très athlétique.
Ouais, alors, c'est ça.
Toi, Benjamin, qui est dans le recrutement, quand on recrute un joueur en Bet League Elite, il faut quand même avoir une certaine garantie sur l'impact athlétique.
Ah oui, donc le championnat de Bet League Elite est vraiment un championnat qui est réputé pour son côté athlétique. On a clairement des avions de chasse, donc physiquement, il faut tenir.
Je suis étonné, par exemple, quand je vois le Finlandais Maxouni du Portel, on se dit, un Finlandais un peu fin comme ça sur le poste de meneur, il va souffrir face à des Justin Bibbins. Ah,
mais au final, non seulement il a fait le job, mais en plus, il a relancé le Portel. Il a relancé le Portel au moment où le Portel était vraiment au fond du trou. Donc,
t'as rien bravo. À voir dans ce recrutement, rassure-moi.
Bravo pour le recrutement, bravo pour. C'était vraiment le joueur qu'il fallait au moment qu'il fallait pour le Portel. Donc ça montre que ce genre de coup est possible, que les clubs peuvent le faire. Maintenant, c'est vrai qu'en fin de saison, ce n'est jamais évident de trouver les bons joueurs.
Alors tiens, aussi, à Rouen, on a une espèce traditionnellement de prisme américain sur les joueurs étrangers, alors qu'on voit dans beaucoup d'équipes des joueurs qui arrivent plutôt de l'autre côté, de l'Europe de l'Est, Gregor Rovat et d'autres joueurs comme ça, qui s'épanouissent dans ce championnat. Et alors qu'à Rouen, finalement, on en a très très peu de ce profil, on en a très très peu vu ces dernières années, ce profil de joueur.
Bogdanovic, c'est, je crois, une des dernières réussites qu'on ait eues.
Voilà, alors ça remonte à très très loin.
C'est saison 2011-2012 ou 2010-2011.
Ouais, quelque chose comme ça, ça commence à remonter. Hein.
Sur une pige sur Page.
Ouais. Ouais, c'est loin.
Après, c'est que historiquement, Rouen a toujours été, entre guillemets, un club d'Américains. Salieur, Sarper, il y a toujours une culture.
Oui, genre, c'est effectivement les années Choulet, Jean-Denis Choulet était très expert du marché américain.
Voilà, c'était vraiment une référence, tout ça. Maintenant, trouver des bons bossman, ça peut se trouver.
Encore, on prend l'exemple d'Henri Drell.
Voilà, sous les yeux, par exemple, j'aime beaucoup Maxime Salache. C'est un joueur qui, pour moi, je trouve que c'est bon, il n'a pas fait un match spécialement.
Surtout qu'il ne jouait pas à son poste habituel.
Ouais, il n'a pas fait un match 4. Statistique, mais enfin, il a fait un gros match. Hein,
ouais, mais c'est, complet, pour moi, hein. C'est vraiment un très bon.
Oui, il a dépanné au poste 5 aujourd'hui.
Voilà. C'est pour moi, c'est un bon joueur, bossman.
Mais toi, tu encouragerais la Chorale de Rouen dans un avenir, alors pas forcément à très court terme là, mais à regarder plus vers l'Est.
Ah oui, complètement. Je pense qu'il y a. Pourquoi d'autres clubs arriveraient à faire venir des bons bossman et la Chorale n'y arriverait pas?
Parce qu'il y a une différence de profil. Si je devais tracer à gros traits, le joueur américain est peut-être plus focus sur ses stats, le joueur d'Europe de l'Est va être plus utile au collectif, faire des choses pour l'équipe et pas forcément des choses qui se voient.
Voilà, après c'est que bon, si on prend du côté de l'ex-Yougoslavie, il y a une vraie culture du basket dans ces pays.
Surtout qu'on est dans une période où les Européens brillent en NBA et font de l'ombre aux joueurs américains.
Voilà, et encore une fois, pourquoi d'autres clubs arriveraient à faire des bons coups sur les bossman et la Chorale n'y arriverait pas? Moi, je pense que c'est tout à fait possible, encore une fois, avec un bon recrutement, un bon scouting, en ciblant bien ce qu'on a envie, de trouver des bons joueurs qui ne seront pas américains, mais qui seront.
Et là, quand on cherche le sauveur, on a le fantasme de, voilà, de l'américain talentueux qui va nous mettre 30 points par match. On l'a moins avec un hongrois ou un letton.
Bah, c'est vrai que c'est peut-être moins sexy. C'est peut-être moins sexy, le letton, peut-être moins sexy que l'américain. Mais pourtant, il y a des très très bons joueurs dans les petits pays, entre guillemets. Maintenant, il faut les trouver, il faut les dénicher et il faut les faire venir.
Et dans le rôle du sauveur, on se rappelle l'histoire de la chorale, c'est Boban Savović qui arrive en tant que pigiste. Alors par contre, là, j'ai perdu.
Lui qui est dans le staff de la Gielbourg, d'ailleurs.
Ouais, et qui, pour son premier match pendant les playoffs, hein, il nous met 29 points. Et cette année-là, on fait. Je crois qu'on monte, d'ailleurs. C'est l'année où on monte. Et donc, c'était pas l'américain sexy. Mais c'était le gars de l'Est, tu vois, Boban Savović. C'est vrai que quand on entend le nom Boban Savović, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a été magique sur le match. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être, et tu as raison Fabien, qu'on se focalise pas forcément sur le Captain America, tu vois, le sauveur avec son drapeau américain, mais peut-être que voilà. Alors après, toi, t'es plus au courant que nous, effectivement, sur les fins de championnat, c'est compliqué. Et c'est peut-être plus facile de débaucher un américain qu'un joueur de l'Est. Ça, après.
On peut trouver aussi un américain avec un passeport.
Alors, oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américains qui découvrent des grands-parents, aussi. Tu sais. Voilà. croates.
Azerbaïdjanais.
Voilà.
En tout cas, ça bougera pas d'ici dimanche. Et ce match de dimanche, il sera très, très important. Alors, à chaque semaine, on dit c'est un tournant.
Et bien, maintenant, ça va le devenir, hein, puisqu'il reste. Il nous reste 10 matchs. 9 puisque celui-là c'était le 10e, ouais. Maintenant c'est 9, on le dit, c'est facile de dire ça, mais c'est 9 finales, effectivement, en sachant que les 3.
On va en prendre au moins 4.
Ouais, parce que les 3 derniers, quand même, on se rappelle, hein, c'est Paris, Asvel et Monaco.
Et un déplacement à Nancy au milieu.
Ah, mais ça c'est pour voir la place Stanislas, ça, c'est du tourisme.
Allez, ce sera à vivre dimanche sur Active à 19h et le débrief dans Active Chorale, le podcast. Merci messieurs.
Merci.
Merci bien. Active Chorale. Le podcast.